Donc, comme je vous l'ai dit, je vais juste vous poser quelques questions afin de dresser un portrait sonore de la ville d'Orléans. Donc, pour commencer, est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous habitez à Orléans?
J'ai toujours habité à Orléans.
D'accord, donc vous êtes un
Je suis orléanais.
Orléanais pure souche.
Oui.
D'accord. Par contre, pour madame, je crois que vous m'aviez dit que.
Non, moi, je suis arrivée en 71 ici.
D'accord. Donc vous êtes plutôt originaire de.
Moi, je suis Stéphane Moise.
Bien. Donc c'est pas du tout la région Sens.
Pas du tout, non.
D'accord. Et donc, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans? Mais comme vous êtes depuis toute votre enfance, donc ben justement, alors je vais vous demander pourquoi vous n'êtes pas parti.
Parce que
Peut-être.
j'ai travaillé dans une entreprise familiale à Orléans.
D'accord.
Toute ma carrière, pratiquement.
Donc c'est l'entreprise de vos parents?
Oui.
D'accord, ben j'y reviendrai justement un petit peu plus tard, puisqu'il y a une petite section sur le travail. Donc justement, si vous n'avez pas quitté la ville pour des raisons professionnelles, peut-être que vous l'aimez aussi, puisque c'est votre ville natale, qu'est-ce qui vous plaît à Orléans?
Ben, c'est une petite ville, c'est pas trop important. On est tout de suite sorti de la ville. Bon, et puis au point de vue culturel, c'est pas mal tout de même. Et puis on est proche de Paris.
Oui. Et donc justement, en parlant de Paris, vous pensez que c'est un avantage ou un inconvénient d'être aussi proche de Paris?
Ben, pour tout ce qui est culturel, on n'en profite pas beaucoup, mais enfin c'est pratique, c'est pas loin.
Est-ce que vous pensez que ça peut-être nuit au développement d'Orléans?
Ben, au point de vue développement, oui, c'est sûr que c'est un petit peu un handicap, mais surtout dans le passé, maintenant il y a moins de problèmes avec le train, avec l'autoroute. Et puis le développement d'Internet et tout ça, c'est moins important de la proximité de Paris, non, enfin c'est pas.
Mais vous n'êtes jamais allé à Paris pour votre travail.
Pour mon travail, non.
Et donc.
J'en avais pas le besoin d'ailleurs.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir? Est-ce que vous étiez de ce quartier à l'origine ou est-ce que vous avez changé
J'étais
de
plutôt du
quartier?
centre-ville.
Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à venir plutôt du côté du faubourg de Bourgogne?
Ben, quand je me suis marié, on a choisi de venir habiter ici.
Vous l'appelez comment ici, ce quartier? Est-ce qu'il y a un nom
Je sais pas, au
spécifique?
faubourg de Bourgogne.
Oui, c'est pas donc c'est à côté de Saint-Marc, mais c'est pas le quartier. On appelle ça
Oh,
Saint-Marc-Bourgogne
on
ou?
appelle ça Saint-Marc-Bourgogne, mais c'est vrai que Saint-Marc-Bourgogne, c'est plus une structure administrative qu'autre chose.
Et donc du centre-ville, vous êtes passé directement ici. Vous
Directement
avez,
ici, oui.
voilà, vous avez, donc ça fait combien de temps que vous habitez ici
Ben,
en fait?
30 ans, 32,
34.
34.
Donc depuis en fait votre
Depuis.
mariage.
Si on est resté 6 mois avenue de Dauphine.
Avenue Dauphine, oui.
D'accord. Et vous êtes resté toujours dans la même résidence en fait?
Après, oui, ici.
Voilà.
Oui.
Donc vous êtes des propriétaires anciens de la
Et
résidence.
chevronné.
Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît justement ici?
Ben, le cadre est relativement agréable, puis on est tout de suite sorti de la ville, c'est très pratique. Puis on n'est pas loin du centre non plus. Pour aller à la gare, il faut 25 minutes à pied, c'est pas un problème.
Oui, ça c'est bien situé.
Mais.
Et donc justement, vous parlez de votre famille ou vos parents. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots pour est-ce qu'ils sont orléanais aussi, leur
Alors, il n'était
profession
pas
ou...
orléanais, mon père était vendéen, ma mère était parisienne. Et les grands-parents de mon père sont venus s'installer dans la région et ont créé une petite entreprise de négoce de céréales. Et mon père a repris et ensuite j'y ai travaillé après.
Donc c'est des Orléanais d'adoption.
C'est des Orléanais d'adoption, oui.
Et donc, madame, alors vous êtes de Saint-Étienne, et vous, c'est votre profession qui vous a amené.
J'étais professeure et je me suis fait nommer ici à l'occasion d'un changement de grade. Je cherchais des villes à une centaine de kilomètres de Paris parce que je savais bien qu'à Paris, bon, les quartiers intéressants étaient réservés à des gens qui avaient beaucoup de points, beaucoup d'ancienneté, donc je ne pensais pas pouvoir habiter Paris, mais bon, profiter justement de la proximité de Paris. Et bon, j'avais demandé Orléans en premier, puis Montargis, puis Dreux, mais c'est finalement Orléans que j'ai eu tout de suite.
D'accord. Oui, c'est souvent ça, c'est la même chose, c'est la profession qui m'a amenée à Orléans, puis après, oui, selon les aléas de la vie, on y reste, oui. Et puis on vient d'adoption. Et donc, on a vu votre fils tout à l'heure. Là, j'ai une question à propos des enfants. Donc, vous avez plusieurs enfants ou vous avez...
On a un seul fils.
Et je peux vous demander son prénom ?
François.
François, vous avez choisi ce prénom-là de quelle façon ? Une raison particulière ou...
Non.
Non, c'est un prénom que... C'est un prénom
qui nous plaisait.
Que j'aime, oui, et qui plaisait aussi à Patrice. On n'a pas beaucoup hésité finalement. C'est pour le deuxième prénom qu'on s'est posé les questions, mais pour le premier non. Et ça ne correspond pas non plus à des frères et sœurs ou des oncles et des tantes qui aient le même prénom, ou à un grand-père, pas du tout.
D'accord. Et votre là, c'est pareil, j'ai des questions sur l'école, etc., mais je suppose qu'il y a longtemps il y a quelques années qu'il a terminé l'école,
oui.
Et donc il y allait quand même, je suppose, quand il était plus jeune. Qu'est-ce que vous pensez des établissements orléanais Où est-ce qu'il est allé, dans un établissement particulier au niveau des lycées, des collèges
Il a été à l'école Saint-Marc.
Oui, donc juste à côté.
Au collège Saint-Marc, oui.
Oui, à l'école Saint-Marc. À l'école primaire
Saint-Marc,
au collège Saint-Marc, et après au lycée du Bourdon-Blanc. Mais il est allé à l'école maternelle rue des Cordiers.
Oui, donc c'est tout à côté.
Tout à côté.
C'est pareil, ce qui renforce le fait que la résidence soit très, très pratique à tout point de vue.
Oui, il est même allé très, très tôt tout seul à l'école.
Oui.
En traversant ce fameux faubourg de Bourgogne qui est quand même un peu dangereux.
Et ce sont des établissements publics ou privés là?
C'est privé.
Privé Saint-Marc, mais l'école des Cordiers est publique.
Oui, l'école des Cordiers est privée et publique, oui.
Est-ce que je peux vous... Enfin, s'il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre ou qui sont indiscrètes, etc., vous me le dites et j'arrête tout de suite. Et juste pour savoir la différence entre privé et public, est-ce qu'il y avait une raison particulière de le mettre dans le privé, ou c'est parce que c'était plus près de chez vous?
C'était plus près.
D'accord. Et justement, par rapport à ce que vous avez connu ou ce que votre fils a connu dans l'enseignement, est-ce que vous pensez que ça a changé vu que, avec tout ce qui se passe maintenant, justement, les différentes manifestations, les réformes? Est-ce que vous avez quelques idées sur l'enseignement actuel?
Ça a bien changé maintenant, oui. Moi, j'ai pas vraiment d'idées. Je suis pas dans la partie, mais...
Moi j'ai vu à la fois une évolution, et puis j'ai vu finalement différents lycées, donc j'ai vu différents types de populations lycéennes orléanaises. Je ne peux rien dire de général.
C'est un bien vaste, sujet. Oui. Et justement, à propos du quartier, est-ce qu'il y a des... Par rapport à la vie de quartier, est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent, qui vous manquent, que vous trouvez intéressantes sur les choses à faire, les équipements sportifs ou culturels?
Équipements sportifs, on n'en profite pas beaucoup. L'avantage de, pour nous, l'avantage de ce quartier, c'est que quand on a envie d'aller faire un tour à pied, on est tout de suite à l'extérieur. Et puis, on n'est pas loin du théâtre, on n'est pas loin de la gare, on n'est pas loin de la Sologne pour aller marcher dimanche. Sans ça, le quartier, ben, il n'y a pas énormément de vie dans le quartier, il n'y a pas énormément de. Ça manque un petit peu de commerce, de
Ouais.
proximité.
C'est vrai que j'ai cru comprendre qu'il y en avait plus avant, qu'il y avait un boucher, enfin un boulanger, il y en a toujours un, mais
Un
maintenant c'est
boulanger,
plus.
il y en a. Oui, il y avait un boucher, il y avait une épicerie.
Et pourtant, vu la population de la résidence, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de personnes qui
Oui,
pourraient profiter des commerces.
c'est sûr.
Justement, le quartier s'est transformé beaucoup au fil des ans ou...
Ah oui, pas ben ça. Et puis, c'est pas fini quand on voit le nombre de résidences et ou de maisons qui se construisent dans les jardins entre le faubourg et la rue Ollignaux, par exemple. Où ça fait un paquet de monde qui va arriver. À Saint-Loup, il y a plusieurs centaines d'appartements qui sont en construction ou construits récemment.
Ah oui, c'est entre le. Enfin, c'est à côté du canal, c'est le.
À Saint-Loup, c'est à Lidl.
Ah oui, aussi, oui.
Ou
Oui, de ce
même
côté.
entre la rue de l'école normale et le faubourg,
Ouais.
il y avait de grands jardins, il va y en avoir de moins en moins.
Oui, il y a une grande résidence là qui s'est
Oui.
construite.
Oui, on se rend pas compte. Tant qu'on passe en voiture, et puis c'est quand on va voir
Quand on
à
va à pied,
pied,
oui.
on s'aperçoit que derrière un petit portail tout simple, on vous dit ici bientôt 50 logements.
Oui, ça se transforme, oui. Et donc justement, s'il y a pas tellement de magasins de proximité, donc vous allez vous faire vos courses à quel endroit?
Ben, en général, on va chez Attaque. Sans ça, quand on va en ville, très souvent, on va en ville à pied, et puis quand c'est pas lourd à amener.
Donc justement, vous en pensez quoi des différents magasins? Je sais pas, enfin que ce soit Place d'Arc, Galerie Lafayette, les différents magasins qu'il y a en ville, c'est bien achalandé, c'est.
C'est pas mal, non?
Oui, c'est pas mal.
C'est très, très. Enfin, il y a beaucoup de monde le samedi. Je pense pas
Le
qu'il y ait
samedi,
que
il y a
des
beaucoup de monde,
Orléanais.
oui.
Il y a des gens qui viennent de toute la Beauce,
Oui,
je
c'est
pense.
vrai. Oui, le samedi, il y a beaucoup de monde. Oui. En semaine, oui, c'est pas très très animé, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est le commerce est en train de changer. Enfin, il y a des tas de boutiques franchisées qui ouvrent et puis qui ferment aussi. Hein. On voit, par exemple, le long de la rue Jeanne d'Arc, il y a eu des ouvertures et des fermetures. Hein.
Oui, il y a des magasins qui restent, qui ne bougent pas trop, et puis il y a des endroits qui changent constamment.
Mais enfin, dans le centre-ville, il y a tout de même beaucoup moins de. Il y a un paquet de magasins qui étaient là il y a 30-40 ans et qui ont disparu.
Ah oui.
Rue Bannier, il n'y a plus, pratiquement plus rien. Il n'y a que des agences immobilières.
Oui. Oui, là c'est pratique. On arrive dans Orléans, on sait où se trouve le.
C'est pratique, mais quand j'étais jeune, rue Bannier, il y avait tous les commerces.
Ah oui, ça évolue. Et donc, habile transition, peut-être moins pour passer des commerces et des gens qui travaillent, mais vous, en ce qui concerne votre métier, donc justement, vous en avez parlé un petit peu en parlant
Oui.
d'entreprise familiale, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous êtes toujours en activité?
Non,
Est-ce
non,
que.
je suis plus en activité. Alors l'entreprise, il y avait deux secteurs. Un premier secteur, en Beauce ou en Sologne, le contact avec les agriculteurs. Donc achat des. On leur achetait leur production, on leur vendait les engrais, les semences et tout ça. Et puis une deuxième partie du métier, grossiste en semences, en graines d'alimentation, en aliments du bétail, pour pratiquement le Loiret et 3 ou 4 départements limitrophes. Donc là, on s'adressait aux revendeurs, grainetiers, aux coopératives agricoles.
Donc c'était quand même une entreprise importante.
Relativement importante, oui.
Donc vous étiez plusieurs
on,
à
on
travailler.
était une on a été jusqu'à 35 à peu près.
Et donc vous avez commencé par ce métier, vous avez parce que maintenant les jeunes vont être amenés à changer de
j'ai
métier.
commencé dans ce métier à la sortie de mes études et jusqu'à la fin.
D'accord. Donc justement au niveau des études, vous avez suivi un cursus
Sup de
particulier.
coup.
Alors,
École supérieure de commerce de Reims.
à Reims, d'accord. Donc vous étiez à Orléans, vous êtes parti à Reims et puis ensuite vous
Oui,
êtes
ben, comme il n'y
revenu.
avait pas d'école supérieure de commerce à Orléans, j'ai fait mes études là-bas, à Reims.
D'accord. Et est-ce que vous pourriez me décrire une journée de travail typique lorsque vous travaillez dans
Pas
l'entreprise?
facile, pas
Ou est-ce que
facile à
c'était
décrire.
jamais typique, c'était toujours différent?
Non, c'est comme. Comme c'était une entreprise familiale et que donc j'étais officiellement directeur administratif et financier et pratiquement quand il y avait un coup dur dans un silo ou quand il y avait quelque chose un client à voir, j'étais toujours dehors. Quand en période de moisson, j'étais dans les silos. Et puis sans ça, quand j'étais au bureau, ben j'avais pratiquement toutes les fonctions administratives possibles, de la réponse à la clientèle, à l'administratif pur, gestion des banques, etc.
Donc ça devait être très intéressant parce que c'était quand même
C'était très prenant.
assez varié. Oui, donc ça vous faisait des longues journées
Oui.
de travail. Et donc maintenant, si vous êtes retraité, est-ce que vous avez des... Je pense pas que vous soyez moins occupé,
Je
mais...
suis toujours aussi occupé, oui, pratiquement. Pas tout à fait, mais pas loin.
Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites comme activité
Eh bien, je m'occupe de la résidence déjà. C'est déjà pas mal prenant parce que c'est souvent imprévu. Quand il y a des interventions à faire, sans ça, ben je m'occupe, je lis, je travaille sur l'ordinateur, je fais beaucoup de. Je m'intéresse beaucoup à l'économie.
De quelle manière
Sur ordinateur ou dans les journaux, je m'intéresse à la vie des entreprises, je m'intéresse à ce qui se passe à l'international dans le domaine de l'économie, de la politique générale.
Et donc vous êtes bien occupé, vous avez
Je m'occupe bien.
des loisirs prenants aussi. Donc toujours pour revenir au métier, quels étaient pour vous les avantages et les inconvénients du métier que vous faisiez?
Ben, comme c'était une entreprise familiale dans laquelle j'avais des parts, j'étais intéressé par la vie d'entreprise, évidemment. Et puis le fait de. C'était une petite entreprise dans laquelle j'avais beaucoup de responsabilités, c'est intéressant. Et puis le travail était varié. Parce que j'intervenais à tous les niveaux, à peu près. Et puis une petite entreprise, on connaît bien tout le monde et c'est intéressant de connaître les gens avec lesquels on travaille, même si parfois c'est pas facile à gérer, mais quand il y a des problèmes avec un salarié, mais enfin.
Donc c'était des gens qui étaient locaux aussi.
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
Donc il y avait un réseau, ça devait être intéressant aussi d'y avoir pas mal de...
Beaucoup de relations humaines, oui.
Donc, si c'est un métier qui était prenant, intéressant, valorisant, est-ce que c'est un métier que vous auriez conseillé ou que vous avez conseillé à votre fils ou
Non, parce que l'entreprise a disparu, mais.
Ah, d'accord. Donc, c'est pas une entreprise qui a continué.
Non, bah c'est un secteur économique qui a évolué énormément dans le temps. Et bon, toutes les petites entreprises ont pratiquement disparu. Maintenant, dans le métier, il y a les coopératives, donc ils sont restés. Dans la région d'Orléans, il n'y en a plus qu'une importante, c'est la distillerie Vertenay qui a racheté toutes les coopératives du coin. Et puis, chez les négociants particuliers, il reste dans le Loiret, il doit rester deux ou trois. Alors que il y a 30 ans, on était une trentaine ou une quarantaine.
Ouais, donc c'est souvent ça, les entreprises, soit elles périclitent, soit elles sont rachetées. Et votre fils, il travaille dans quoi?
Mon fils, il travaille actuellement dans une école maternelle, c'est ça?
Non, non, primaire.
Primaire. L'école primaire à la Ferté-Saint-Aubin.
Et donc j'ai une question qui aurait été et votre femme que fait-elle ou que faisait-elle? Mais comme madame est à côté, donc vous étiez enseignante.
J'étais professeure d'allemand.
En allemand, d'accord. C'était à quel niveau?
Au lycée Potier.
Et donc c'était enfin, c'est une question, enfin, quand on demande au professeur si c'est un métier intéressant, c'est ça vous passionnait, c'était.
Oui, c'était très intéressant. Et puis, bon, j'avais la chance d'avoir vraiment des élèves intéressants et intéressés. Bon, j'ai travaillé en prépa la plupart du temps, quoi. C'était moitié prépa scientifique, moitié prépa économique. Enfin, je veux dire, quand j'entends parler de la difficulté d'enseigner aujourd'hui, des problèmes de mes collègues, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance.
Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose d'enseigner en prépa et d'enseigner. Et donc ça vous manque ou même pas?
Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais. Non, c'est extraordinaire, la retraite, c'est des vacances perpétuelles. Non, non, non. Justement, j'ai des amis qui partent tellement en retraite et qui s'inquiètent, qui se demandent si elles vont s'adapter aux vacances.
J'ai une question justement sur les vacances, donc je peux vous la poser. Je peux vous la poser tout de suite, mais à ce moment-là, vous allez me répondre que c'est les vacances
Les vacances tout
perpétuelles.
le temps, oui.
Donc justement, quand vous êtes en vacances toute l'année, mais quand vous partez en vacances, vous avez une destination particulière ou
On a de grands voyages, on en a fait pratiquement qu'au début de notre mariage. Après, on est resté dans des vacances très, très françaises. Et puis, oui, et puis depuis que je suis depuis que nous sommes en retraite, nous partons en voyage en Europe. Nous faisons systématiquement des petits sauts européens. Et enfin, moi, j'aime bien ça.
Oui, ça n'a pas été agréable.
C'est des voyages essentiellement culturels qu'on fait maintenant.
Donc dernièrement, vous êtes allé dans quel...
Le dernier, on a été aux Pays-Bas. On a été 12 jours à peu près, c'est ça?
Non, c'était 2 semaines
Deux
entières,
semaines?
non? Ouais.
2 semaines aux Pays-Bas et on a adopté un système qui consiste à prendre un logement dans une petite ville centrale, pas loin d'une gare, et ensuite on va dans les villes où il y a un intérêt culturel important, visite de musées, visite d'édifices.
Religieux. Ça a fonctionné jusqu'à maintenant.
Oui.
C'est sans doute, on ne pourrait pas faire ça avec tous les pays, mais avec des pays densément peuplés, et puis avec un réseau ferroviaire bien, c'est pratique, on n'a pas le stress de la voiture. On se repose des longues stations dans les musées, dans le train, ça c'est pas mal.
Donc on a fait trois séjours en Italie, un en Belgique et un aux Pays-Bas. Le prochain, ce sera peut-être en Espagne.
Il nous reste énormément de choses à faire en Europe. Voilà.
Oui, c'est intéressant. C'est une belle façon de visiter. Donc vous y rendez en train et puis après vous circulez
en train.
Vous circulez en train. Donc justement, à propos des loisirs, on continue. Vous avez bien raison, quand vous avez travaillé toute votre vie, vous pouvez maintenant avoir des loisirs. Donc vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure en parlant du temps libre. Mais est-ce que vous participez à des activités associatives? Est-ce que vous avez dit que vous n'utilisiez pas les équipements sportifs?
Non, on ne les utilise plus.
Vous marchez, je suppose.
On marche beaucoup, on fait un petit peu de vélo.
C'est agréable d'habiter ici pour le vélo.
Ah oui, on est à deux pas de...
Mais oui, c'est plat et on est tout près du chemin du canal, là. Et on peut aller loin sans danger, c'est très agréable.
Donc de la marche, du vélo, vous surfez un peu sur Internet aussi.
Oui.
Non, pas sur les vagues, mais sur Internet. Et en ce qui concerne la vie culturelle, le théâtre est pas loin, donc est-ce que vous en profitez aussi?
Oui, bien sûr, oui.
Vous avez un abonnement de théâtre ou vous y allez?
Oui, en général, on prend un abonnement au cadeau. Mais le programme de l'année prochaine me dit pas grand-chose. Je crois qu'il faudrait essayer autre chose.
On va être forcé d'aller à Paris.
Oui, c'est vrai.
Vous allez pouvoir profiter de la proximité de Paris. Oui. Donc, est-ce que vous allez souvent au cinéma ou au concert?
On va pas assez souvent au cinéma, ça c'est sûr. Voilà. On a un peu perdu cette habitude. Quand on était plus jeune, on y allait plus souvent. Et il faut dire aussi qu'on est relativement déçus. C'est très très souvent, on en sort avec l'impression que le film était trop long, qu'on aurait pu dire la même chose en un tiers de temps, et puis que tout est gonflé vraiment par les critiques cinématographiques. Et je trouve que c'est dommage. Donc on ne peut plus distinguer, il faudrait lire entre les lignes le langage des fleurs des critiques de cinéma pour savoir où est-ce qu'il faut bien tomber.
Oui, c'est très subjectif aussi. Donc c'est
oui,
vrai
sans
que
doute.
Des fois il y a des films qui sont encensés et puis en fait.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Mais enfin, c'est sûr qu'on pourrait faire plus d'efforts pour aller au cinéma.
Est-ce que vous pouvez me citer justement les cinémas d'Orléans?
Enfin, au célèbre. Oui. Quand on y va. Ouais, je suis allée voir les Ch'tis au pâté. Mais enfin, plutôt au Select ou au Carme.
Oui, parce que c'est quand même, il y a quand même un cinéma d'art et essai.
Oui,
bien
sûr.
Donc. En 71, le cinéma d'art et essai, c'était le mardi après-midi dans la rue de Bourgogne, le mardi soir dans la rue de Bourgogne, qui était très très mal famé à l'époque, bon, qu'il fallait vraiment faire des efforts pour aller voir du film d'art et essai, alors que maintenant, c'est bien plus simple.
Et justement, la rue de Bourgogne mal famée, c'était vraiment une réalité à l'époque.
Ah oui, oui, écoutez, on se donne rendez-vous au cinéma en question le mardi soir. J'attends 10 minutes mon mari au coin de la rue. Mais on vient me faire des propositions ou me demander mon tarif ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pénible.
Flatteur, mais pénible.
Oui.
Oui, parce que moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que habitant la résidence et devant, enfin j'allais fréquemment et toute seule au début voir les films, donc il fallait traverser la rue de Bourgogne pour aller au cinéma. Et nombreuses personnes m'ont dit, mais ça va pas, t'es complètement folle, tu vas te faire agresser. Et, bon, à part peut-être une personne éméchée qu'on rencontre de temps en temps,
Oui,
et
non, mais
encore, il
c'est.
n'y a pas de. Donc je ne savais pas justement si c'était vraiment une réputation.
Mais c'était comme ça. Maintenant,
Ça l'était un petit peu moins, mais.
c'est un peu moins, mais oui, c'est. On rencontre des gens ivres le week-end. Et bon, moi, j'ai vu quelqu'un qui prenait un mauvais coup un jour au niveau du café chrétien. Là, ça s'appelait peut-être encore pas café chrétien. Et c'était un samedi après-midi. Maintenant, je fais le tour par une autre rue parce que j'ai un peu peur de faire ce type de rencontre. Mais c'est vrai que mal famé, peut-être moins maintenant.
Un peu moins, oui.
Enfin oui, mal famé au sens étymologique, c'est sûr, très très mauvaise réputation. Moi aussi, ça m'étonnait aussi beaucoup. Je demandais toujours leur avis aux élèves. Je ne comprenais pas pourquoi la rue avait si mauvaise réputation.
C'est-à-dire qu'il y a pratiquement deux parties dans la rue Bourgogne, la partie côté galerie où il y a beaucoup de commerce et où c'est beaucoup mieux famé, mais en Paris, c'est pas, il n'y a pas de commerce, il y a des trucs
Oui, il y a des
plus ou moins
espèces de
louches,
bistrots
des
plus ou
petites
moins
rues.
attirants.
Oui.
Oui, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a une raison historique à ce partage de la rue
Ben
ou c'est...
c'était une. Ben jusqu'à la préfecture. Entre le centre-ville et la préfecture, bon, y a toujours eu une vie commerciale. Et puis en Paris 6, c'était résidentiel et relativement pauvre. C'était des maisons qui étaient en très, très mauvais état.
Mais c'était un peu l'histoire des centres-villes en général. Les
Mais.
loyers n'étaient pas élevés au centre-ville. C'était comme ça dans le vieux Tours aussi. Et à partir du moment où ça a été modernisé, les loyers étaient plus accessibles pour des gens très très modestes, pour les gens très modestes
Puis il y a tout de même un grand nombre de pas de porte commerciaux qui ont été repris. Alors c'est fermé plus ou moins,
C'est vrai, oui.
c'est un peu louche, c'est mal fermé.
Oui, il y avait aussi un boucher qui a fermé à Bourgogne.
Oui, il y a beaucoup de.
Un
Il y en a plusieurs,
épicier,
oui.
oui. On avait un cordonnier.
Il y avait un cordonnier, il y avait un boulanger, il y avait.
Maintenant, il faut marcher quand même pas mal avant de trouver
Oui,
le
bien sûr.
premier
Oui.
commerce.
Il y avait plusieurs pharmacies. Maintenant, il n'y en a plus
Il en
qu'une.
reste une. Une en Paris ici, puis
Une par
une
ici
la
et une.
pharmacie de France
Oui, tout à fait.
à l'autre bout, mais.
Oui, donc ça fait deux qui ont disparu, deux pharmacies. Il y en a une au coin de la rue du Gourdon-Blanc, puis une autre un petit peu plus loin, près du centre, dans la rue de Bourgogne. C'est vrai.
Donc il y a des commerces qui ferment d'un côté, mais enfin d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de rénovation là,
Maintenant, il y a beaucoup de rénovations. Il y a des restaurants, des boîtes à pots qui sont un petit peu moins pouilleuses qu'il y a 20 ans. Non, il y a une vie nocturne qui est assez intense. Nous, on n'en profite pas parce qu'on ne sort pas beaucoup, mais à nos âges.
Est-ce que c'est une volonté politique de la ville de faire peau neuve, de
Ben c'est
révéler,
tout un
ravaler les
quartier, c'est
façades?
tout un quartier qui est tout de même
Le manque.
c'est tout de même un quartier relativement intéressant parce qu'il y a pas mal de maisons très anciennes qui, une fois retapées, sont pas mal.
Et on s'aperçoit que beaucoup de maisons qui avaient des crépis, maintenant sont des maisons à pans de bois, donc elles sont médiévales ou renaissance.
Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Enfin, moi, ça fait 4 ans que je suis ici, mais entre mon arrivée et maintenant, c'est vrai qu'il y a eu la place de la République, les différentes rues piétonnes, il y a eu beaucoup de choses de repavées.
Mais la rue de Bourgogne, Il y a encore 10-15 ans, c'était vraiment pouilleux, l'habitat. C'était moche, c'était pauvre, c'était cassé. Et on s'aperçoit maintenant qu'il y a tout de même pas mal de maisons qui sont assez jolies.
Donc justement, pour un petit peu redorer le blason d'Orléans, il y a eu beaucoup de choses au niveau des embellissements des bords de Loire.
Les bords de Loire, c'est important, oui.
Donc ça vous plaît ce qui a été fait
C'est pas fini, mais c'est pas mal.
Le long du canal.
C'est pas mal, oui, c'est assez intéressant. Et puis ça redonne, ça équilibre un petit peu les aménagements entre la partie ouest de la ville et cette partie-ci qui était assez, assez moche.
Oui. Ah oui, il n'y a aucune comparaison.
Il n'y a aucune comparaison, oui.
Le quai de Loire, le quai Madeleine, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a du gazon soigné. Et ici, c'était vraiment... c'était pas beau du tout.
Non, c'était pas beau.
Donc il était temps qu'il fasse quelque chose.
Alors c'est pas fini maintenant, bien sûr, mais enfin bon.
Et donc il y a aussi les fêtes de Jeanne d'Arc et ça s'est passé. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé cette année ou...
Certainement très bien.
Oui, on était là, mais enfin, en général on n'y va pas, mais on apprécie la façon dont la ville est fleurie. J'avais invité une amie, non pas aller aux fêtes, mais un week-end, une amie parisienne, et on est allé à deux visites guidées organisées par l'Office du tourisme, qui étaient complètement différentes. On a fait une visite des environs de Tourelle, avec une guide qui nous a beaucoup parlé de Jeanne d'Arc, donc les tourelles et le quartier Saint-Marceau. Et puis le lendemain, on est allé visiter la crypte de Saint-Aignan à La Chandelle. C'était aussi très intéressant.
Oui, donc il y a des choses qui sont faites par l'Office du tourisme.
Oui,
par...
c'est pas mal fait. Hein.
Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez, justement
Est-ce que c'est suffisant? Je ne peux pas dire, parce qu'il y a quand même relativement longtemps qu'on n'a pas invité d'étrangers et qu'on ne s'est pas penché sérieusement sur le problème. Mais je trouve qu'on en fait de plus en plus. Et quand on voit, quand on rentre de Sologne, de cette promenée, si vous voulez, on prend le pont ancien, puis qu'on revient là, qu'on voit tous les Orléanais qui se baladent sur la promenade au bord de la Loire, les gens ont l'air heureux. Je trouve que c'est bien.
Ah, c'est-à-dire que c'est l'aménagement des quais de Loire, ça permet de donner un centre de, j'allais dire culturel, mais pas, c'est pas ça, mais un centre d'intérêt touristique autre que le centre-ville par lui-même, mais c'est un lieu de rassemblement des gens assez important quand on voit le nombre de gens qui s'y baladent.
Oui, et puis de tous âges, et apparemment de toute provenance, c'est un
mélange
de population intéressant.
Et le Festival de Loire aussi qui a été...
Oui, oui. C'est sûrement une manière d'attirer les touristes qui est assez importante, parce que jusqu'à maintenant, l'inconvénient d'Orléans, c'est que les touristes, soit français, soit étrangers, qui venaient, en général, ils passaient la journée, ils ne s'arrêtaient pas, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à voir ou à visiter.
Ils cherchaient les châteaux.
Ils cherchaient les châteaux, oui.
C'était la place des Martrois et puis où est le château.
Et le tram, vous en pensez quoi? Ou le futur tram
Oui, c'est vrai.
Le tram et le futur tram, c'est sûrement très intéressant pour les gens qui voyagent beaucoup dans la ville ou qui viennent de l'extérieur pour travailler. Moi, personnellement, je le prends jamais. Quand je vais loin ou à l'extérieur de la ville, j'y vais en voiture, sans ça je marche à pied. Il faut dire que je travaille plus. A priori, comme ça, je dirais que l'inconvénient du tram de la première ligne nord-sud, c'est que il fait au moins assez de détours et que pour les gens qui viennent de l'extérieur pour aller en centre-ville, c'est peut-être relativement long, un petit peu trop long comme parcours, mais enfin, c'est très subjectif.
Non, mais je crois que c'est le cas. Il y a beaucoup d'enseignants qui habitent Paris et qui viennent donc en train et après qui doivent prendre le tram. Et c'est pratiquement aussi long de venir de
Ah
Paris que de faire Paris,
oui. Peut-être pas tout à fait, mais tout de même, oui.
que de venir du centre-ville à l'université.
Mais c'est quand même pratique par rapport à ce qu'il y avait avant. Je me souviens d'avoir vu moi, des étudiants étrangers avec de lourds bardas qui prenaient un car
Oui, bien sûr.
à la source pour aller jusqu'aux Aubrais. Et puis, avec les trams arrivent régulièrement, tandis que les bus étaient très
Il y
souvent
en a
en
plus, oui,
retard.
bien sûr.
Et la nouvelle ligne, elle va passer près d'ici ou
Non,
derrière?
relativement loin, elle passe.
Sur le boulevard Maristoua,
Boulevard
quand tu
Maristoua, oui.
regardes un peu. Bon, c'est pas très loin,
Non,
d'ici,
mais.
hein, mais quand même.
Oui, ça va poser quand même des problèmes pour les gens qui habitent dans le quartier, parce que s'il faut entre un quart d'heure et 20 minutes de marche pour prendre le tram, c'est peut-être
Ils le
pas
font
tellement
pas, mais
rentable.
oui. Et puis les gens très âgés de la résidence, là, c'est sûr.
Il passera devant le théâtre, non?
Je sais pas, justement, je sais pas où il va passer.
Ah oui, dans ce cas-là, ça
Je sais
serait
pas.
plus pratique.
À ce moment-là, oui, et prendre une correspondance, le bus, et ça peut
De
être
toute
pratique.
façon, si on en juge par le réseau de bus qui a été modifié avec la première ligne de tram, maintenant quand vous voulez aller n'importe où, la première ligne, ça vous emmène à la gare et au tram. Donc là, ils font la même chose, sans doute.
Et la couleur du tram, est-ce que vous avez un avis dessus?
Pourquoi ça pose problème
Non,
d'Orléans?
non, non, c'est juste une question
La
qui me
couleur
vient,
du
parce que je sais
tram.
qu'à Clermont-Ferrand, il est rouge, très rouge sang presque. À Bordeaux, il est dans les tons de gris.
Oui.
Et là, vous savez,
Là, moi, je trouve que
Couleur sable de Loire.
cette couleur
Oui,
gris,
voilà.
oui, gris souris, je trouve que c'est pas mal, mais on le voit pas beaucoup. Et comme il est très silencieux, il y a des gens qui traversent pour aller à la gare ou qui sortent de la gare et qui, tout d'un coup, se trouvent près d'un tram. Alors, c'est vrai que s'il était rouge, on verrait peut-être
Rouge et brouillant.
mieux.
Je crois que c'est ça, Sable de Loire, c'est l'ancien maire d'Orléans, il l'avait nommé
Je sais
comme ça.
pas.
Ah bon?
J'ai cru
Ah, je ne
entendre que
savais
c'était
pas.
Jean-Pierre Sueur
Ah
qui,
bon?
je ne sais pas si c'est lui ou son conseil municipal qui avait
Ah,
choisi la couleur,
peut-être.
mais c'est une
Oui.
couleur donc justement très poétique, Sable de Loire.
Non, mais c'est sûr que c'est plus agréable à regarder qu'un tram agressif rouge. Ou bien il y a des villes où ils sont peints murées en dragon, des choses comme ça. Celui-là, il est calme quand même.
Il n'est pas agressif. Et toujours sur Orléans, donc est-ce que vous pouvez me parler de la rumeur, cette fameuse rumeur d'Orléans, donc venant d'un Orléanais et puis de quelqu'un qui est arrivé un petit peu après.
Ben, la rumeur, c'était. Je ne sais pas comment c'est parti, mais ça a été. Les gens disaient que chez les grands commerçants de la rue Royale, oui, de la rue Royale, en principal, il y avait des clients qui disparaissaient.
Des clients ou des
Des
clientes?
clientes.
D'accord.
Donc, et il n'y a jamais eu de preuves formelles, mais enfin, régulièrement, ça ressortait avec. On citait des noms de commerçants. Alors, est-ce qu'il y avait une tendance à suspecter plus des juifs qu'autre chose? C'est pas impossible, je sais pas. La rumeur peu à peu s'amplifiait de ce côté-là, sans doute. Bon, il n'y a jamais eu rien de précis. Les commerçants qui étaient cités nommément n'ont pas apprécié, sûrement. Et ça a duré très longtemps, parce que ça revenait régulièrement.
Ça a duré sur combien d'années?
Je sais pas, une dizaine d'années, sans
Ah,
doute.
quand même.
Oui.
Et c'est parti dans les années 60, 70?
C'est parti dans les années 60, plutôt.
Je pensais que c'était sur 2-3 ans, j'avais
Ah
pas
non, non, ça a
idée
été très très long et régulièrement ça revenait. C'était toujours les mêmes, les marchands de vêtements, principalement. Mais toujours les mêmes, il y en avait deux ou trois qui étaient toujours cités, c'était les plus importants.
Est-ce qu'on savait ce qu'elles devenaient, ces clientes, ces jeunes filles qui
N'y avait jamais
disparaissaient?
de. Et j'ai rien eu de prouvé par la police, hein, de toute façon. Mais c'était toujours des on-dit, et puis elle disparaissait, et puis elle disparaissait. Sans laisser de traces, il n'y avait pas de nom de personne disparue. C'était toujours sans aucune preuve.
Vous avez
Enfin,
vous avez la même approche
moi j'ai ben, je ne sais pas comment les gens réagissaient parce que je suis arrivée en 71, mais si j'ai bien lu Edgar Morin, il disait que c'était vraiment ciblé antisémite, et il donnait des noms de marchands de vêtements qui étaient juifs d'origine. Et il disait justement que Cassegrain, qui était orléanais pur sucre, avait intitulé sa boutique Les Oubliettes. Mais moi je peux dire qu'à Saint-Étienne, il y avait la même rumeur autour d'un marchand de chaussures. Et moi, enfin, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait être antisémite. Et je ne sais pas du tout si le marchand de chaussures entrait dans cette catégorie-là. Mais je me souviens qu'au lycée, on racontait, il faut pas acheter des chaussures là parce que les filles disparaissent. Donc, il devait y avoir une rumeur dans chaque ville, on n'y pensait pas.
Bah, si on lit l'ouvrage oui, d'Edgar Morin, oui, il a plutôt tendance à dire ça, que régulièrement il y a des rumeurs qui surgissent dans des villes et ça vient pas forcément de la ville. Oui, je crois que c'était à Amiens aussi, différents endroits où ça ressurgissait comme ça.
Je me souviens pas de. Enfin, moi je parle de Saint-Étienne parce que je l'ai vécu, mais je sais pas non plus si. La rumeur s'est reproduite après.
C'est-à-dire qu'à Orléans, il y a eu. Maintenant, ça existe beaucoup moins, mais il y a 30-40 ans, il y avait le fait que la plus grande partie du centre-ville et des grands commerces appartenaient à des Beaucerons, qui avaient fait fortune dans leur activité agricole et qui investissaient dans le centre-ville. Alors il y avait peut-être des jalousies aussi vis-à-vis de personnes qui étaient plus dans l'industrie. Donc il y avait sans doute aussi de ça qui.
Jalousie de la réussite.
Oui.
Peut-être aussi parce que Orléans est une ville qui a gardé très très longtemps des structures sociologique très, très, très fixe. Il n'y avait pas, un gros mélange de populations. Ça a commencé à partir du moment où De Gaulle a voulu décentraliser. Mais les gens qui étaient là, les vieux commerçants comme Laudet, par exemple, qui avaient leur librairie depuis je ne sais combien de générations, ou les casse-grains, ou encore les badiniers, qu'est-ce qu'il y avait encore, les marchands de rideaux. Et c'était des badiniers aussi, les marchands de rideaux?
Non, c'était Vapro, oui.
Aussi. Bon, ça fait combien? Ça fait quatre familles, des gens qui étaient là depuis des siècles.
Oui, et qui avaient plusieurs magasins dans le centre-ville, à des noms différents. Alors ça provoquait des jalousies,
qui est
évidemment.
Pour les bègues, les marchands de chocolat aussi, ils ont cette boutique-là, mais ils en ont plusieurs dans la ville.
Eux aussi, ils faisaient disparaître les femmes.
Ah, eux aussi.
Oui.
Ah bon?
Il me semble, oui.
Vous avez parlé justement de la Beauce, d'Orléans, de la Sologne. Est-ce qu'il y a un parler orléanais? Est-ce qu'il y a un patois soloniaux? Est-ce qu'il y a une façon de parler particulière ou...
À Orléans, je ne sais pas. Si vous essayez de comparer un Beauçon et un soloniaux, vous n'y arriverez pas. C'est deux races complètement différentes. Le Beauçon est. Il a un parler qui n'est pas très différent du parler de la région, mais c'est une race de gens qui sont très durs en affaires, qui n'ont pas beaucoup de paroles commerciales. C'est des gens qui peuvent vendre un produit trois fois. Et c'est des gens qui sont extrêmement durs en affaires. Ils avaient pour coutume très souvent de se faire payer avant de livrer la marchandise, alors qu'ils n'avaient aucun problème financier. Le Sologno, lui, il est beaucoup plus pauvre financièrement. Enfin, je parle des gens qui vivaient de la terre, hein, évidemment, ou de la chasse. Beaucoup plus pauvre financièrement, souvent avec beaucoup de dettes, mais avec une franchise et une honnêteté beaucoup plus importante qu'au nord de la Loire. Ils vous devaient de l'argent, mais ils le disaient, ils n'allaient pas essayer de vous voler, ils vous disaient j'ai pas d'argent pour payer, c'est tout. Mais beaucoup plus pauvre d'ailleurs, quand on voit l'état de l'agriculture en Sologne maintenant, il n'y en a pratiquement plus.
Donc c'est pas le même type d'exploitation.
C'est pas du tout le même type d'exploitation. Les terres sont beaucoup moins riches. Les exploitations beaucoup plus petites en général. Et puis les agriculteurs soloniaux vivaient aussi beaucoup de la chasse. Maintenant il n'y a plus de chasse. Donc il n'y a plus d'exploitation agricole liée à la chasse et aux grandes propriétés. Donc cette population-là a bien disparu. Et maintenant, les gens qui habitent en Sologne sont des gens qui travaillent à Orléans ou à Paris, comme vous et moi.
Donc est-ce qu'il y a un parler soloniaux ou...
Les gens qui habitaient en Sologne et qui vivaient de l'agriculture ou de l'élevage ou de la chasse avaient un parler très particulier, oui. Des expressions et un accent, mais surtout beaucoup d'expressions très imagées souvent.
Parce qu'une des raisons pour lesquelles les enseignants britanniques étaient venus à Orléans, c'est parce qu'on dit qu'Orléans, c'est le centre de la France, et c'est un endroit où le français n'est pas marqué. Donc c'est peut-être moins pointu qu'à Paris, et c'est pas l'accent de Marseille, et donc on a l'impression que c'est assez neutre.
Oui, non, mais vous parlez d'Orléans et de la vallée de la Loire, mais c'est très différent au nord et au sud.
Donc entre la Beauce d'un côté, et puis le... Après tout,
Pratiquement, Ici, on avait, il y a encore 30 ans, on avait trois régions. Il y avait la Beauce au nord, la vallée de la Loire, le Val de Loire, ce qu'on dit, et puis la Sologne. Et au point de vue culturel, et au point de vue accent, et au point de vue expression, c'était trois très différents.
Mais sinon, à Orléans même, vous ne frappez pas comme ayant un accent particulier.
Je pense pas qu'on ait beaucoup d'accent, non. Enfin, je sais pas, mais...
Non, je crois pas. Mais on a entendu plus loin dans le Val de Loire, du côté de Tours, des gens parler un français
qui parlaient beaucoup mieux,
oui. Sans oublier une négation. On était dans un bistrot de village et les gens se parlaient, se racontaient leur vie quotidienne dans un français parfait. On était très étonnés. Donc c'est pas ici encore.
Justement, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent dans les différents types de parler, dans les façons de parler? Donc là, vous parliez de gens qui s'exprimaient dans un français très correct, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, au contraire, qui vous énervent, qui vous étonnent, qui...
Ici?
Rien ne nous énerve.
Non,
vous choque.
Ce fameux français relâché qu'on entend partout et qu'on est bien obligé de manipuler, parce que dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas choquant. Enfin.
Par exemple, à la télévision, est-ce que vous pensez que le français...
On regarde pas beaucoup la télévision sur des grandes chaînes. Sur des grandes chaînes, on regarde de temps en temps des émissions culturelles sur Arte ou sur la 5, sans ça des films ou du sport, mais le langage à la télévision n'est pas toujours très châtié.
Justement, est-ce que les gens vous paraissent parler de mieux en mieux ou parler de moins en moins bien au niveau des accords, des participations?
Les accords.
C'est plutôt de l'écrit que ça relève, ça. Les gens ne font pas les accords, comme depuis bien longtemps on ne fait plus les liaisons, mais ça s'entend pas trop, quoi. Ça se lit, alors là, oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de langues parlées à Orléans, donc outre le français? Est-ce qu'en promenant dans la rue, vous entendez beaucoup de langues étrangères?
On entend parfois les Portugais qui parlent entre eux.
Oui.
Mais comme ils parlent aussi bien français, il n'y a pas de problème. J'ai entendu ce matin des gens qui se disputaient en arabe, je ne sais pas quel arabe.
Non, le langage n'est pas... Bon, les émigrés parlent plus dans leur langue qu'il y a encore une dizaine d'années, mais bon, sans ça, quand on entend des gens s'exprimer en français, il n'y a pas tellement de... Bon, il y a de temps en temps quelques langages jeunes qui diffèrent un petit peu il y a 10 ou 15 ans, mais sans ça, globalement, il n'y a pas énormément de changements.
C'est une petite question technique. Est-ce que vous utilisez un dictionnaire, justement, si vous avez un doute sur un mot ou...
Ah oui,
bien sûr, bien sûr.
Le dictionnaire est devant l'ordinateur et puis on a chacun un dictionnaire dans notre chambre.
Ah, d'accord.
Et enfin.
J'osais à peine poser cette question en me disant que c'était dépassé et que les gens n'avaient plus de dictionnaire, mais apparemment...
Non, hier, on parlait de Saint-Dié, justement. C'était une révélation pour certains que Saint-Dié s'écrivait SC.
Donc c'est pas obsolète, vous vérifiez régulièrement?
Bien sûr, oui.
Donc vous parlez de l'ordinateur, est-ce que c'est un ordinateur personnel à vous, monsieur, ou est-ce que c'est l'ordinateur de la famille, ou est-ce que...
Ben c'est surtout moi qui m'en sers, mais bon, c'est l'ordinateur de la famille.
Donc ça, c'est un outil nouveau dans le...
Oh, nouveau, nouveau.
C'est une façon de consulter oui. des choses sur Internet.
Et... Oui, bien sûr. On utilise beaucoup Internet et bon, c'est notre deuxième ordinateur. Celui-là, il est de 2001, celui-là.
Oui,
donc l'autre, il devait avoir...
L'autre,
c'était en 94.
94,
oui, c'est ça.
Oui, donc vous n'êtes pas des consommateurs qui changent d'ordinateur tous les ans.
Non, on change pas d'ordinateur tous les ans.
Pour pouvoir suivre.
On ne change pas tous les ans.
Oui, justement, quelquefois, c'est problématique. Là. L'ordinateur oui, qui vient d'être récupéré, réparé...
Et puis, pour continuer sur Orléans et peut-être aussi pour finir, est-ce qu'il y a au niveau de la gastronomie régionale ou locale, est-ce que, donc en venant d'un côté de quelqu'un qui est d'Orléans et puis de l'autre de quelqu'un qui est venu un peu plus tard, est-ce qu'il y a des plats, des choses qui vous ont frappé comme étant typiquement orléanaise
C'est la question Cotignac.
Typiquement orléanaise, je ne sais pas.
La fameuse...
La tarte tatin, mais...
La tatin et la terrine.
Et la terrine. Ah oui, la terrine.
La terrine de foie de volaille. Quand on m'a donné la recette quand je suis arrivée dans les premières années, et bon, on la trouve toujours aussi bonne, et puis on trouve qu'elle est bien meilleure que toutes les autres terrines.
Donc ça, c'est typique d'ici.
Peut-être que ça.
C'est-à-dire que quand il y avait beaucoup de gibier en Sologne, il y avait beaucoup de recettes à base de gibier, de terrines et tout ça. Maintenant, il y en a un petit peu moins, mais enfin, c'était plus. Ça vient de là, la fameuse terrine en question.
Oui. Et les cotignacs, vous pouvez me dire ce que c'est ?
Des cotignacs ? On va vous Comment ? Faire un cadeau. Ceci est un cotignac.
Merci. Ah, d'accord. C'est de la pâte de coin, en fait.
C'est de la pâte de coin.
Oui, de la gelée de coin.
Et c'est une spécialité d'Orléans, alors.
D'accord, donc là c'est vraiment typique.
Oui, parce que c'était un médicament. Hein. C'est bon contre la diarrhée, tous les problèmes intestinaux. Donc je crois que les médecins en prescrivaient depuis le Moyen-Âge et les coins étaient les cognassiers, c'était des choses rares, enfin des plantes rares qui venaient sans doute de l'Orient, mais je ne sais pas exactement d'où. Hein. Mais même dans les. Il me semble avoir vu des pots dans les apothicaireries d'hôpital.
Oui.
Avec le titre coin sur la. Oui, c'est utile.
Il y avait un petit peu de cognacier dans le Val-de-Loire, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin.
Cette année, c'était une année de coin, on en a vu un peu partout. Sur les marchés très longtemps. Autrement, la tarte tatin, oui, c'est particulièrement bon. J'aime beaucoup ça.
Et donc, pour finir et pour terminer sur une recette, est-ce que vous pourriez me donner la recette de l'omelette ?
De l'omelette ?
Oui. Comment est-ce que vous faites une omelette ?
C'est une question piège.
Du beurre, des œufs et des girolles.
Ah oui, c'était vrai.
Et un petit peu de crème.
Donc voilà pour les ingrédients. Et vous en faites quoi de tout ça ? Comment est-ce que vous préparez ? Comment est-ce que vous faites une omelette ? Comment est-ce que vous la préparez ? Imaginez que je ne sache pas. Imaginez que je n'ai aucune idée de la façon de faire une omelette. Comment est-ce que vous pouvez
un petit peu. Bon, alors c'est moi qui fais la cuisine maintenant.
Si tu veux, mais vas-y.
Alors on met du beurre dans la poêle. On fait chauffer le beurre. On met les œufs à cuire, et puis on met les girolles dedans, mais les girolles, il faut les avoir fait cuire avant, excusez-moi, on recommence. Donc une fois les girolles cuites, ayant perdu leur eau, on les met dans l'omelette qui est encore toute liquide, et puis on laisse solidifier tout doucement. Voilà, on met du sel, du poivre, un petit peu de fines herbes quand il y en a, et voilà.
Merci. Donc pour vous, une omelette traditionnelle, enfin traditionnelle, c'est une omelette aux girolles.
À Orléans, près de la Sologne, bien sûr.
D'accord. Et madame, vous faites la même chose? Vous la préparez de la même façon ou...
Oui. Celle d'hier manquait un peu de girolles, mais enfin, on peut pas tout avoir. C'était hier, avant-hier? Non, je sais.
Hier.
Ah ben, vous voyez, comme quoi, la question...
Non, mais je me disais, quelle difficulté y a-t-il? Peut-être c'est une question de prononciation. Est-ce que dans omelette, il y a peut-être des difficultés linguistiques, il faut se sortir.
Il faudrait connaître le. Quel est le chercheur qui a trouvé cette question?
Mais c'était une question, en fait, c'est vraiment une question héritée du premier questionnaire, parce que là, on travaille sur des thèmes, on essaie de rebondir sur ce que les gens font, donc il y a des choses qui vont être comparables, et puis il y a des choses nouvelles, comme sur le tram, etc. Mais l'omelette, c'était vraiment une question qui a été posée...
Une question anglaise,
voilà,
posée à des Français, oui, d'accord.
De la part des Anglais, parce qu'ils voulaient savoir comment les gens comment procéder pour faire une recette. Donc il y avait les différentes tâches à effectuer. Donc c'était ensuite pour montrer à leurs élèves en leur disant voilà, une recette à la française, les gens font d'abord ça, ensuite ça. Donc c'est une question qui a posé beaucoup de problèmes parce que on savait jamais comment l'amener en fait. Donc souvent les gens commençaient par ça en disant bon, pour tester le son, je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire rire. Donc évidemment les gens éclataient de rire ou pas. Une omelette, et donc c'est un peu la même réaction que vous avez eue. Une omelette? Ah oui, une omelette. Et donc c'était pour voir un petit peu comment les gens faisaient. Donc c'est une question difficile, on ne sait jamais trop où la mettre entre le tram et puis les fêtes de Jeanne d'Arc. C'est pas évident. Donc celle-là, on l'a gardée pour vraiment pouvoir faire une vraie comparaison. Voilà. Ben, je vous remercie. On met fin à l'entretien. Voilà.